Bien. Maintenant, passons à une question de Corrigan. Comment identifier les émotions qui sont propres à l'âme? Eh bien, ça, je ne pourrais pas te répondre dans la réalité, parce que, en fait, d'une certaine manière, on va dire que notre âme est née de notre corps émotionnel. Donc, pas évident de faire la séparation entre les deux. En tout cas, une chose qui est claire, votre âme aime être en paix. Parce que pour elle, à chaque fois que vous n'êtes pas en paix, eh ben, c'est la tempête. Et il y a des grosses vagues. Et ça, elle n'aime pas, quoi. L'âme aime la paix. Et si vous faites des choses qu'elle n'aime pas parce que ça va à l'encontre totale du respect, de l'unité, de l'harmonie, bien se fâche. Voilà. Une question de Bennett. Peut-on dire que c'est la peur, c'est-à-dire la somme de toutes les peurs, qui est à l'origine de la création de l'âme? Non. C'est pas les peurs qui sont la création de l'origine de l'âme. C'est l'inverse. C'est l'âme qui a créé les peurs. C'est-à-dire que comme elle a été créée dans un état d'urgence, on va dire, eh bien, ça veut dire qu'elle n'avait absolument aucune maîtrise de quoi que ce soit. Et donc, comme elle n'avait aucune maîtrise de quoi que ce soit, eh bien, elle a été à l'arrache, on va dire. Et quand on y va à l'arrache dans le monde de la matière, eh bien, on a des surprises, on a des souffrances. Et donc, l'âme s'est souvenue de ses souffrances. Et donc, en se souvenant de certaines de ses souffrances, eh bien, ceci a fabriqué des peurs. Donc, en ayant peur de dire « si je mets ma main dans le feu, j'ai peur de me brûler », eh bien, c'est parce qu'elle a eu l'expérience, un jour, du feu, et elle dit « putain, ça fait mal ». Et c'est là qu'est née la peur. Donc la peur est une protection, je vous rappelle d'une certaine manière. Hein, c'est une protection contre l'environnement. Contre, on va dire, un certain nombre de choses. Hein. Mais après, il faut savoir aller au-delà de la peur. Et surtout, remettre en cause l'origine même de la peur. Parce que quand vous étiez gamin, vous avez forcément eu quelques peurs. Peur de ceci, peur de cela, et puis après, bah, pourquoi le garder toute sa vie? Uniquement, écoute, j'étais gamin. J'étais haut comme trois pommes, j'avais peur que la bouteille qui était sur la table me tombe sur la tête. Bon, c'est sûr que maintenant, comme la table vous arrive au niveau du bassin, vous avez plus peur qu'elle vous tombe sur la tête. Donc pourquoi garder cette peur? Donc c'est pour ça, faut dégager un certain nombre de choses. Alors, et le fait d'avoir de moins en moins peur de tout ce qui représente l'autorité humaine, entre guillemets, et d'abandonner petit à petit tout ce qui nous maintenait dans cet état de peur, le travail, les assurances, les ménages, l'alimentation, c'est notre moteur du ciel qui redevient présent et joue son rôle de père, ou c'est l'âme qui se rend compte qu'elle s'est faite avoir par tout un tas de simulacres de vie. Eh ben, écoutez, je dirais, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est-à-dire que effectivement, comme il va y avoir moins de peur, il va y avoir peut-être un petit peu plus d'écoute de votre petite voix, c'est-à-dire de votre soi supérieur. Et à ce moment-là, si vous demandez des choses, vous allez dire bah tiens, il me demande de sauter dans la piscine. Mais bon, j'ai lu qu'il fallait toujours vérifier s'il y avait de l'eau. C'est déjà une chose. Mais s'il y a 10 cm d'eau dans la piscine et vous êtes au plongeur vers de 3 mètres, ça fait mal quand même. Hein, donc, il y a quand même des sécurités à prendre, on est d'accord. Mais concrètement parlant, l'âme aussi va modifier un certain nombre de choses. On va dire, bah écoute, il faut déjà vérifier qu'il y a la présence de l'eau, c'est déjà pas mal, mais est-ce que ça sera assez profonde? C'est une question encore un peu plus loin, vous voyez. Ok. Et donc, quand on a une prise de conscience, cela se fait au niveau de l'âme. Elle ouvre enfin les yeux, si on peut dire. Alors, une prise de conscience. La prise de conscience, c'est l'espace, qui se situe entre la matière et l'antimatière, c'est-à-dire entre la matière physique et l'esprit. D'accord ? Et donc, effectivement, ton âme, d'une certaine manière, est née de la matière pour aller vers l'antimatière. Donc elle a, d'une certaine manière, elle aussi une conscience. Mais à notre niveau, c'est difficile de faire la différence entre la conscience, on va dire, mentale et la conscience de l'âme. C'est difficile. Parce que on va voir que notre corps a aussi une conscience incarnée. C'est-à-dire que notre corps, on va appeler ça l'innéité, a aussi sa conscience. Donc les trois personnages ont tous les trois une conscience. Et donc ces trois consciences sont, on va dire, plus ou moins mélangées. Mais ça n'empêche, c'est comme la mayonnaise, même si c'est mélangé, vous pouvez dire là il y a des œufs, là il y a de l'huile, et là il y a du poivre, par exemple, du vinaigre. Donc on pourrait quand même isoler les composants, mais ça reste quand même la mayonnaise. Une question de Nada. Le SDH nous aide-t-il à déchiffrer notre âme ? Dans la réalité, moi, là, comme ça, non. Non. Qu'en est-il de l'acceptation ? C'est de l'accueil, donc, de notre côté yin, pour faire régner la paix par rapport aux exigences de nos gamins et de la droiture de notre côté yang. On y fait autant bien avec âme et petit ego que nos gamins. C'est la clé, ne pas s'identifier. Bon, excuse-moi, Nada, mais là, même en lisant, là, j'ai un peu de mal à comprendre tout. L'acceptation, comme tu dis, c'est simplement regarder ce qui est. Et en regardant ce qui est, bien, et sans jugement, eh bien, tu peux tout simplement évaluer ce qui se passe et dire « ok ». Mais tu lances pas le petit vélo en disant « voilà, mais pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça et ceci ?» Parce que si on balance ça, forcément, en gueulant un peu fort, tu vas réveiller l'âme, entre guillemets, qui va y mettre aussi du sien. Et puis, comme tout ça, ça va générer, on va dire, certaines hormones particulières dans ton corps qui va dire « attendez là, merde ». J'avais déjà du mal à gérer le bordel ici, mais alors là, maintenant, si vous mettez tous à gueuler dans les couloirs, comment je vais faire ? Donc, comprenons bien que le côté yin, le côté yang, c'est le masculin, c'est le féminin, c'est la matière, c'est l'antimatière, c'est... Bon, bref, c'est comme un tambour, quoi. Quand vous tapez dessus, ça fait du bruit, quand vous tapez pas dessus, c'est fait pas bruit, quoi. Allez, Monique 34. L'âme devient une entité à part entière, c'est-à-dire que lorsque ces expériences sont transmutées en enrichissement dans la paix, l'harmonie et la lumière de l'esprit, elle prend son envol au-delà de la matière. Alors, là, il faudrait déjà dire elle prend son envol au-delà de la matière, il faut savoir qu'elle est déjà au-delà de la matière, hein, puisque c'est une vibration. Donc cette vibration, même si elle est issue du moteur de la Terre, elle est issue à partir du deuxième chakra principalement, donc une vibration. Donc elle est vibration, et c'est pour ça qu'en étant au quatrième chakra, je vous signale que c'est au-dessus du premier voile de l'oubli, donc elle est dans le moteur du ciel. Et elle est en contact avec l'esprit. Donc avec l'antimatière. Donc elle va automatiquement, comment dire, quand tu mets là, lorsque ces expériences sont transmutées en enrichissement dans la paix, elle n'a pas à elle n'a pas à transmuter quelque chose. Elle désire simplement être dans la paix, l'harmonie, la lumière. Le seul truc, c'est que nos actes quotidiens ne l'emmènent pas vers ça. Et c'est pour ça qu'elle hurle. Donc, il va falloir qu'elle fasse quand même aussi un boulot, quand même, il faut le comprendre, un boulot de dire, bon, j'ai eu ça avant, mais c'est du passé, maintenant que je vis dans l'instant présent, je vis dans l'instant présent, je regarde ce qui est, point barre, je ne me recolle plus ce qu'il y avait dans le passé. Donc effectivement, transmuter, on peut transmuter du passé, c'est-à-dire, bon, ça, j'ai eu ça, à une telle époque, ok, maintenant, ça y est, c'est dépassé, je transmute la chose, terminée, on passe à autre chose. Ça, c'est une transmutation, et forcément, ça ira vers la lumière. Mais on ne transmute pas la paix, on ne transmute pas l'harmonie, on transmute nos crasses. Et transmuter, c'est simplement regarder, on va pas dire froidement, mais quasiment, regarder froidement ce qu'il y a et se dire « bon, ça, c'est plus pour moi, merci, au revoir ». Et puis c'est aussi simple que ça. Mais il faut pouvoir le faire. Une question d'Agnès. « Peux-tu nous parler de la nuit de l'âme et de la stase ?» Alors, ça réfère toujours à ces fameux écrits de la dissolution de l'âme, qui forcément, il y a la nuit de l'âme, et qui forcément, il y a la stase. Alors, tout ça, c'est du grand vocabulaire qui est fait pour les gens qui ont beaucoup de neurones et beaucoup de synapses et qui veulent se faire du tricot. Donc, concrètement, la nuit de l'âme, c'est-à-dire, c'est grosso modo, tordre le cou à toutes tes illusions. Hein? Tout en aspect bisounours. Tout ce qui va toucher le cœur égo de près ou de loin, bah, quand tu lui tords le cou, t'as un problème. C'est que ça va disparaître. Et quand ça disparaît, tu dis, mais je fais quoi là maintenant? Alors là, bah, y a un gros... Et c'est pour ça que on dit que la nuit de l'âme, enfin en général, il parle de 3 jours, d'une stase de 3 jours, c'est-à-dire que, grosso modo, il faut que tes cellules vont mettre 3 jours pour encaisser la différence. C'est-à-dire de dire, bon, on abandonne ça, ok. Et le temps que ça s'incruste dans tes cellules, ça prendra 3 jours. Donc, comme dirait l'autre, c'est le fameux stase, c'est un espèce d'arrêt sur image, comme on va dire, qui va pas être forcément plaisant. Qui va pas forcément être plaisant. Parce que d'un seul coup, tu vas te sentir vide de quelque chose, tu vas dire, oh, il y a une vacuité qui se fait, et là, tu vas essayer de te raccrocher, tu vas dire, bah oui, mais Dieu existe, oui, mais il y a ceci, oui, mais la paix va venir, oui, il y a un sauveur qui viendra, tu balances. Donc, c'est sûr que c'est fortement déstabilisant. Donc, c'est pour ça que les lectures de ce canal est à regarder, mais surtout en regardant l'aspect cœur égo. Et vous verrez, comme je l'ai déjà dit, les questions sont purement mentales, mais alors, je sais pas où ils vont chercher ces questions. Y a bien une chose, c'est que c'est complètement à l'opposé de la simplicité. Vraiment. Bon. Alors, une question de Bennett. Comment l'âme des animaux a été créée? Ben, c'est tout simple. Les animaux ont une âme de groupe. Ça veut dire que, grosso modo, tu as une entité, enfin, on va dire un esprit, qui est venu, et ben forcément, il a traversé l'huile. Donc, l'âme des animaux est née de toutes nos distorsions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des lions qui bouffent, des lions, des lionnes qui bouffent d'autres animaux. En 5D, 6D, ça n'existera plus. C'est pour ça qu'on dit que le paradis, le lion se couchera à côté de l'agneau, il ne touchera pas. Parce que dans les lois de l'unité, dans les lois de l'un, il n'existe aucun prédateur. Donc s'il n'y a aucun prédateur, il n'y en a aucun qui bouffe l'autre. Donc en cela, on va dire que les animaux se sont fait, déviés. Donc c'est pour ça qu'ils ont une âme, c'est-à-dire qu'ils ont des choses à régler eux aussi. Donc quand vous entraînez certains chiens à sauter à la gorge de certains humains, le truc c'est que c'est pas gentil du tout, quoi. Parce que c'est un non-respect de la vie, d'une certaine manière, et en plus d'un créateur incarné. Donc les âmes de groupe, on va dire des animaux, ont accumulé, on va dire, un certain nombre de réflexes et ont, on va dire, quand même des choses à dénouer, quelque part. Mais ce sont nous qui les avons, entre guillemets, amenés à ce stade. Voilà. Mais il n'y avait pas avant. Enfin, dans le monde de l'un, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous ne verrez aucun monde... parce que je vous rappelle que le monde animal est dans le moteur de l'humain, c'est la 3D. Donc, ils se sont fait intoxiquer par nous, quoi. Totalement. Voilà, donc c'est pour ça qu'au niveau des âmes, il y a des choses bien particulières qui vont se passer, qu'il y a des animaux qui vont, des races, des espèces qui vont carrément s'éteindre sur cette planète, mais il y en aura des nouvelles qui vont arriver. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas. Que ça soit nous qui les exterminions, entre guillemets, à cause de braconnage, ou de saloperie, ou de pêche, ou de tout ça. Bon, d'accord, mais n'empêche que, d'une certaine manière, eh bien, il y aura de nouveaux animaux, et il y a des anciens qui disparaîtront. Donc, ça, j'en avais déjà parlé, sur 3, 4, 5D, vous allez avoir, il y a des animaux qui ne passeront jamais en 5D, 6D. Alors, ceux qui ne passeront jamais, ce sont surtout les plus beaux. Donc, adieu éléphant, adieu rhinocéros, adieu les vaches. Passeront pas en 5D, 6D. Alors, Si vous voulez bouffer du fromage, faites-le maintenant, parce qu'en Sunday, il n'y en aura plus. Ah, voilà, quoi. Une question de Seb. Dans le ménage à quatre, l'âme, qui a longtemps été la réduction symbolisée de notre aspect spirituel, notamment par le cureton, me semble un bon modèle d'interface piège à esprit qui veut expérimenter la matière. Si le mental est l'ordinateur de bord de notre véhicule corporel, falsifié au point de nous le faire prendre pour le chauffeur, l'âme me semble être la combi du pilote. Oui, tout à fait. Façon vêtement fétiche qui te fait croire que sans elle, tu ne gagneras pas la course. Oui, disons que là, l'esprit de compétition, c'est quand même le mental. Ok. Résultat, elle est devenue collante, karma oblige, au point de nous bloquer sur le siège avec la roue des réincarnations qui ne cesse de tourner. Du coup, c'est le retour à la case départ, soit une tête du cheptel humain, prêt à être retendu, très équerri, avec ses, bon, hein, ses putains de voiles de l'oubli. Oui, d'accord. Le Big One planétaire qui s'annonce, réplique des déluges et autres remises à zéro, égale reset planétaire, ne sert-il pas justement à libérer les esprits en dissolvant ce lien d'attache? Certes utile à l'expérience d'incarnation, je vois mal un pilote faire une course à poil, et en quoi c'est interdit? Mais certainement falsifié comme tout le reste, Prometheus doit se retourner à Satan. Merci de donner ton avis sur cela et désolé pour la tartine pas trop indigeste, j'espère. Bon, disons qu'il y avait une métaphore, mais concrètement parlant, il faut comprendre que il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et comme tu dis, le Big One, hein, le Big One, c'est un espèce de reset qui va se faire, mais c'est un reset qui va pas être forcément d'une violence qui va durer 2-3 jours. Non, c'est quelque chose qui va être progressif, parce que je vous rappelle que quand même, l'âme aujourd'hui, elle a été enfantée, on va dire, dans l'urgence, et aujourd'hui, il faut qu'elle passe à un autre stade qui n'est plus celui de l'urgence. C'est-à-dire, il faut qu'elle considère qu'elle est maintenant dans l'éternité. Et donc, c'est pour elle aussi, elle a des progrès à faire de ce côté-là, hein, d'arrêter ce système de survie. Parce que, bah, quand on est dans l'urgence, c'est généralement il y a de la survie. Voilà, donc c'est pour cela que quand on sera en scène des 6D, on aura fait copain-copain avec la fille, ça sera plus la petite gamine ou l'adolescente, ça sera devenu une adulte. Enfin, ça deviendra une adulte. Et quand on passera au-delà, après, hein, c'est-à-dire qu'on quittera cette planète Terre pour aller ensemencer d'autres planètes dans le deuxième cercle atomique, eh bien, à ce moment-là, l'âme sera une personne adulte, enfin, on va dire une entité adulte, qui pourra poursuivre son chemin, seule comme une grande, et qui pourra s'incarner dans d'autres corps. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas issue d'un corps, elle viendra s'incarner dans un corps, ce qui sera différent. Hein? Voilà, 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 voilà. Ok, alors, comme il reste un tout petit peu de temps, je vais me permettre de répondre aux quelques questions diverses. Alors, je vois qu'il y a Timo qui dit « C'est donc ça les 3 jours d'obscurité ?» Oui, 3 jours d'obscurité correspond en fait à l'intégration d'un changement radical par rapport à tes cellules. Car, je rappelle que dans vos cellules, il y a un noyau, dans ce noyau, il y a un ADN, et qu'il lui faut un certain temps pour que tout ça soit pris en compte. Donc, le rythme des 3 jours est obligatoire au niveau cellulaire. Une question de Henri. Or, Durantia Gaïa, les êtres n'ont pas de corps émotionnel. Si, ils ont des corps émotionnels. Ce qu'ils n'ont pas, c'est l'homme. Ce qui est différent. En venant sur Terre, la création de l'âme a été, en fait, un trouble émotionnel. Mais il y avait un corps émotionnel. Hein, je peux vous dire que beaucoup de guides, hein, tous les guides que je connais, ainsi que tous les EDLN, ils ont tous un corps émotionnel. Ils ont des émotions. Et je peux vous dire, autrement plus puissantes que les nôtres. Nous, c'est des pêtes de lapin à côté. Donc, le truc, c'est qu'ils ont un corps émotionnel. Mais ils n'ont pas d'âme. C'est ça la différence. Donc, l'âme est une création pure que nous avons fait en tant que créateur incarné, comme nous sommes venus sur Urantia Gaïa. Et donc elle navigue, on va dire, dans le corps émotionnel et se sert du corps émotionnel pour s'exprimer. Une question de Grégo. Bonjour, un jour je me suis vu en rêve éveillé dans un miroir, mais je n'avais pas le même visage. Était-ce mon âme ou mon moi supérieur ? Eh ben, ça dépend. C'est-à-dire que effectivement, ton moi supérieur, eh bien, peut te montrer tous les visages des différentes incarnations. On est d'accord. Donc ça, c'est le visuel. Maintenant, si tu vas au-delà du visuel et tu commences à ressentir ce que ressent le visage qu'il y a en face de toi, là, tu vas taquiner au niveau de l'âme. Tu savais, un jour, j'ai eu une expérience avec une demoiselle qui essayait de voir en moi un certain nombre de choses, parce qu'elle était connectée. Moi, je n'étais absolument pas connecté à cette époque. Enfin, quand je dis à cette époque, pas connecté de la même manière, on va dire. Et donc, je souriais parce qu'en me regardant dans les yeux, parce qu'elle a canalisé une entité qui voulait voir et qui avait des choses à me dire, elle a vu défiler un paquet de personnages. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi aussi, je voyais dans ses yeux ce qu'elle voyait. C'est-à-dire que j'ai vu aussi tous les visages, enfin un paquet de visages passer devant, mais alors Donc là, c'est pas mon âme qui m'a forcément présenté tout ça. Mais c'est clair que j'ai pu voir un certain nombre de photos, et bon, bah, comme dirait l'autre, c'est des photos d'époque, hein, donc c'était pas forcément la classe, et pas forcément l'idéal de beauté qu'on aimerait avoir d'une certaine manière. Une question de Clotilde. Mon fils de 12 ans ne peut dormir seul dans sa chambre. Il ressent des présences depuis tout petit. Il dit voir dans le couloir, tandis qu'il est dans sa chambre. Est-ce que c'est dans ces moments-là qu'il est uniquement son âme? Comment l'inviter à être plus présent dans son corps et donc se sentir plus en sécurité? Bon, alors, il peut y avoir effectivement cette façon de regarder, parce que effectivement notre âme peut se déplacer n'importe où, hein, mais ce qui est quand même important à savoir, c'est que quand vous êtes en rêve, vous vous déplacez, c'est-à-dire. Mais si il voit les choses dans le couloir et qu'il ne rêve pas, c'est-à-dire qu'il est absolument en éveil, bon, allongé au lit, etc., là, bon, c'est d'autres phénomènes, mais il peut y avoir effectivement une très forte connexion avec l'âme. Ça, c'est une évidence. Alors, et donc se sentir plus en sécurité, ben, la sécurité, c'est, on va dire, une confiance en soi. Donc, ce qui veut dire que, grosso modo, il a dans ses bagages quelque chose qui le rend nerveux, on va dire, et qui l'empêche de pouvoir s'endormir en paix, tranquille. Donc, peut-être, en tant que maman, on peut simplement suggérer que c'est tout à fait normal. Hein, c'est-à-dire, on dit, ouais, tu vois des choses, ah, ça c'est pas normal. Tu lui dis, c'est normal, bah oui, c'est quoi le problème? Et il va dire, bah, puisque c'est normal, bah, c'est comme ça. Et à ce moment-là, bah, il ne sert à pas de contrer la chose. Il la vivra, et puis il dira ça, c'est tout. Alors, voyons les questions diverses. Une question de Vincent. Est-ce que si une personne possède un côté intérieur féminin trop prononcé par rapport à son corps physique masculin, et inversement, elle peut basculer dans l'homosexualité? Dans ce cas, l'homosexualité est-elle une involution? Est-ce un blocage ou autre? Si oui, l'abstinence est-elle salutaire? Bien, alors, il faut comprendre que l'homosexualité est absolument normale. Normal dans le sens que régulièrement, vous passez d'un corps masculin à un corps féminin dans votre incarnation. Simplement, imaginez que, supposons, dans la vie précédente, vous étiez une femme super sexy avec des petites lingeries d'enfer et que vous avez un succès relativement conséquent et pas vous naissez et vous avez un zizi entre les pattes. Au niveau de l'âme, elle est habituée à la petite lingerie. Elle est habituée à ce qu'on la regarde, à les mouvements voluptueux, etc. Et mais vous êtes dans un corps de mec. Et donc l'adaptation va peut-être pas se faire aussi facilement, parce que normalement, je dis normalement, hein, parce qu'il y a tout a été expérimenté. Donc on peut dire qu'à chaque incarnation, vous changez d'un corps mâle à un corps femelle, puis mâle, femelle. Mais des fois, vous pouvez faire trois incarnations successives en tant que femelle. Et vous retrouvez, paf, un corps de mâle. Ah! Et donc là, il faut s'adapter, quoi. Et réciproquement, vous avez fait 3, 4 ou 5 incarnations d'affilée dans un corps de mâle, et vous vous retrouvez dans une femme. C'est sûr que quand on va dire, il existe les tampax, les trucs, ah oui, ça sert à quelque chose, ce truc-là, c'est quoi? La lingerie féminine, la dentelle, ça va pas trop le faire quand même, hein, parce que vous allez faire avec, quoi. Vous allez être dans un corps de femme, vous êtes un mec dans un corps de femme, comme je disais dans ma dernière rencontre. Ou réciproquement, vous pouvez être une femme dans un corps de mec. Donc, l'homosexualité, c'est simplement ce passage de corps en corps, et quand vous passez d'un corps yin à un corps yang, votre âme, on va dire, les vêtements que vous avez sont pas forcément en adéquation. Il est évident que si vous avez eu 3-4 vies en tant que femme, quand vous passez par le vestiaire, le mec, il a du mal à mettre les hauts talons quand même. J'espère que vous avez compris, l'homosexualité est absolument normale. Et c'est parce que c'est parfaitement normal que les involvants ont combattu ça à mort. Ah oui? Donc généralement, on faisait surtout l'homosexualité masculine. On a massacré dur les homosexuels masculins. Mais les homosexuels féminins, ça se voit pas. Ça se voit pas. Très peu. C'est beaucoup plus discret. Voilà. Donc, il n'y a pas de blocage à avoir à ce niveau-là. Généralement, il faut se débloquer, c'est-à-dire accepter ce qui est. Et c'est tout, quoi. Mais il faut comprendre que c'est pas parce que vous avez un féminin intérieur plus développé, si vous êtes dans un corps de mâle, vous avez un féminin intérieur plus développé que votre masculin, que ça veut forcément dire que vous êtes un homosexuel et que vous allez vous travestir. Pas du tout. Pas du tout. C'est en cela que c'est un petit peu délicat, parce qu'aujourd'hui, on va dire, beaucoup d'homosexuels sont devenus des homosexuels, en fait, par dépit. C'est-à-dire, c'est pas par leur âme, mais par dépit. C'est-à-dire que, je prends pour les mecs, hein. Les mecs, parce que j'ai rencontré beaucoup d'homosexuels dans les relations un peu à droite à gauche. Le truc, c'est que j'ai bien remarqué qu'il y avait ceux qui c'était naturel chez eux, quand ils étaient dans un corps de mec, mais ils auraient été dans un corps de nana, ça aurait pas changé grand chose, ils avaient la vibration. Par contre, j'ai connu un certain nombre d'individus qui en fait sont devenus homosexuels, mais qui n'en avaient pas la vibration. Donc comprenez bien que c'est comme la sensibilité, la sensiblerie, c'est à peu près la même chose. C'est pas parce que vous êtes sensible que vous allez forcément tomber dans la sensiblerie. Voilà. Alors, si oui, l'abstinence est-elle salutaire? Il n'y a pas d'abstinence en quoi que ce soit. C'est vous suivez le principal. Vaut mieux être un homosexuel heureux que d'un hétérosexuel qui fait la gueule et qui est en souffrance et qui est destructif. Une question d'Isabelle. Depuis plusieurs semaines, j'ai des démangeaisons irrépressibles de quelques secondes et ponctuelles, c'est-à-dire qu'elles cessent aussi vite qu'elles sont survenues. Bon, là c'est la question est assez longue. Je sens bien qu'il n'y a rien de médical là-dessous, mais j'aimerais comprendre de quoi il s'agit. Et Laurent, j'espère que tu auras une info pour m'éclairer. Bah écoute, comme je dis, je suis pas un toubib, hein, je sais pas vraiment tout ce qui se passe, mais il peut y avoir effectivement des mouvements énergétiques au niveau de ton corps qui fait que bah il y a des moments ça chatouille, ça gratouille, et puis ça va disparaître rapidement, ça va réapparaître ailleurs. C'est peut-être simplement un nettoyage ou une prise de conscience à ton niveau, simplement dû à une élévation de fréquence, tout simplement. Et comme tu le dis, ça n'a rien de médical, donc faut simplement laisser faire les choses, et puis c'est tout. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Alors, une question de Chronos. Nous sommes dans la période d'ascension, mais toujours incarnés. Alors c'est maintenant que nous allons être mis en présence visuelle des involuants de 4D et plus, avec notre âme en bandoulière, puisqu'elle n'aura pas réintégré le vestiaire. À quoi vont pouvoir ressembler les pièges de ces entités en dehors des plus gros du genre nouvelle religion mondiale, E.T. venant soi-disant pour nous sauver? Alors j'essaie de relire. Alors, être mis en présence visuelle, ça sera, vous le découvrirez qu'à fur et à mesure que vous allez monter effectivement en fréquence, arrive un moment, plus vous allez vous rapprocher de la 5D en termes vibratoires, et plus vous allez commencer à voir des choses. Alors, selon les cas, alors bien sûr, je connais un certain nombre de dames qui voient parfaitement ce qui se passe, et généralement c'est pas beau à voir. Et puis, moi de ce côté-là, de temps en temps, je vois des trucs, mais je n'insiste pas. Pour l'instant, je ne désire même, je dirais, je ne désire pas voir. Bien que je puisse voir des fois certaines choses, je ne focalise pas là-dessus. Parce que je me dis ça, je suis peut-être pas encore assez nettoyé quelque part. Donc, je veux pas qu'il y ait des grosses peurs qui remontent ou des machins. Je cherche pas ça. C'est comme les films d'horreur, quoi. Je regarde aucun film d'horreur et je n'ai pas du tout envie d'aller voir des films d'horreur. Donc, quand on commence à voir ce qui se passe dans l'invisible, véritablement, c'est un film d'horreur. Donc, non, ça m'intéresse pas. Donc l'objectif c'est monter en fréquence et puis passer ce stade. Alors arrivé à un moment, il est évident que plus vous allez être haut en fréquence et plus ce qu'il y a autour de vous va vous fuir. Enfin je parle en termes d'involution. Donc parce que vous serez tellement lumineux que quelque part ils vont pas apprécier la lumière que vous dégagez. Donc c'est pas gênant. Enfin je trouve personnellement que pour moi je cherche pas à savoir. Même quand je rencontre des êtres de la nature, si c'est un nain, c'est un nain. Je veux même pas savoir c'est quoi ses fringues, c'est quoi qui le différencie de l'autre. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Tout ça, ça m'intéresse pas. Bon, ça n'empêche que certaines dames voient tout ça parfaitement. Ils peuvent même les dessiner. Elles m'ont décoré. Elles peuvent voir tout ça dans le détail. Bon, d'accord. Mais bon, j'aperçois quelquefois, on va dire, des formes. Mais je vous dis, j'insiste pas, je ne veux pas savoir, ça m'intéresse pas. Une question de 1000. Possible, je voulais savoir quelle était la symbolique du lion, car depuis quelque temps, j'ai des synchronicités autour de ce thème. Autant le dragon, c'est clair, mais le lion, je ne le comprends pas. Bah écoute, t'as peut-être été lion, tout simplement, et puis que ça te revient. Et maintenant, on va voir pourquoi la symbolique du lion, et j'avais cru lire, enfin c'est pas cru, j'ai lu dans un texte de Métatron, attends, c'est Métatron, ça me va. Non, c'est pas Métatron, c'est Grabovoi. Vous avez dans un bouquin de Grabovoi qui parle des lions, et ils disent en fait que les lions ont une capacité, c'est de voir le futur proche, immédiat. Ça veut dire que, grosso modo, ils voient avec 5 minutes ou 10 minutes d'avance. Globalement, donc, ils peuvent éviter un certain nombre de saloperies parce que ils voient le futur qui va arriver dans les 5, 10 minutes ou le quart d'heure, je sais plus. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est le roi des animaux parce qu'il peut savoir ce qui va se passer dans le futur. Et donc, réagir au présent afin que de prendre le meilleur scénario pour lui. Bon, ça, c'est un truc qui a été raconté par Grabovoi. Voilà. Il faut savoir qu'avant d'avoir été dans un corps humain, nous avons passé par des corps d'animaux. Donc j'ai appris via mes esprits cristallins que j'avais été une tarentule à une époque, parce que on m'avait dit, si tu veux, je peux te faire rencontrer une super nana dans tes rêves, hein, et elle fera tout ce que tu veux, j'ai dit d'accord. Et elle me dit, ouais, une belle tarentule, parce que là, franchement, tu les dévorais, Donc j'ai dit bon non, là dans cette vie, la tarentule, même en rêve, non, je préfère quand même dans l'humanoïde. Et donc voilà. Une question de Denis. Si personne n'avait combattu Satan, que se serait-il passé? Est-ce possible dans le plan? Alors, le truc, c'est que vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un changement, il y a une résistance qui se crée, obligatoirement. Si le changement est très lent, très lent, la résistance sera très faible. Ok, donc si on n'avait pas combattu Satan, ça aurait pris plus de temps. Mais de toute façon, arrivé à un moment, il y aurait eu suffisamment d'eau pour que ça commence vraiment à dire, attendez, là, on a dérivé, là, quand même, il y a un truc. Donc les plus sensibles auraient déjà réagi. Mais il serait passé quelque chose. Là, ça a combattu, ça a réagi apparemment assez vite, et ça a fait gagner du temps, on va dire. Hein, mais comme le temps, à un certain niveau, ça n'existe pas vraiment. Enfin, un jour, je vous en parlerai, mais on verrait que la notion de temps est totalement variable, d'abord selon les dimensions, et l'aspect dont qu'il prend est très surprenant. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, si on n'avait pas combattu Satan assez vite, de toute façon, ça serait quand même venu. Puisque, je le rappelle, c'est quand même une volonté de la source et du sang. Une question de Bennett. Quand l'expérience sera terminée pour nous et que nous irons prêcher à la bonne parole, comme tu dis, le sans-nom permettra-t-il encore à la lumière sombre de prendre où que ce soit autant de place, 99% comme sur Terre, alors qu'il sait que ça n'amène qu'à la destruction? Ou veillera-t-il à ce que le 50-50 soit respecté? Alors, le truc, c'est que nous sommes l'éprouvette, c'est-à-dire que nous sommes la planète la plus dure de tous les univers, de toute la création. Donc, il fallait bien aller dans les extrêmes. Et c'est grâce à cet extrême que, d'une certaine manière, l'âme est née. Et donc, nous sommes passés du couple à trois. Et donc, comme tu le sais, le cordon d'Eléa, qui est là pour, on va dire, fabriquer le 8e super-univers, a pour objectif quoi? Eh bien, ça va être d'inséminer ce 8e super-univers, ainsi que les 5 autres qui vont suivre, avec la trinité de base, c'est-à-dire corps, âme, esprit. C'est de dire que s'il n'y avait pas eu cette création de l'âme sur cette planète Urantia Gaia, eh bien, l'insémination de la vie, on va dire, dans le deuxième cercle atomique, n'aurait pas été possible, puisque tout était déjà dans le premier cercle. Donc on ne créait pas la vie en reproduisant exactement ce qu'on connaît. Il fallait qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et voilà pourquoi l'âme est apparue. Et cette âme est apparue dans des conditions d'urgence, parce que l'aspect involuant est venu tellement vite, tellement fort, que ça a créé ça. Donc c'est une richesse. C'est une richesse, et c'est pour cela que tous les Urantiens sont marqués, on va dire, de fer rouge au niveau de leur esprit directeur, parce que c'est la plus belle médaille que vous puissiez avoir. C'est-à-dire que non seulement vous avez un corps émotionnel comme un certain nombre d'humanoïdes dans ce 7e super-univers, mais en plus, vous avez créé, en tant que créateur incarné, l'âme. Et donc voilà pourquoi cette planète Urantia Gaia a autant supporté de souffrance et d'irrespect, vraiment quasiment à l'opposé. Hein. Je me souviens qu'on s'est déjà autodétruit 3 fois quand même, l'humanité. Donc, c'était violent quand même. Mais unique. Donc imaginez quand vous êtes, comme on dit, une vieille âme, c'est-à-dire que vous avez des centaines, pour ne pas dire des milliers d'incarnations. Vous avez acquis une expérience qui est colossale. Maintenant, l'objectif, c'est de rassembler tous les morceaux et de dire maintenant au corps, à l'âme et à l'esprit, vous bossez ensemble, pas chacun dans votre coin, parce que l'esprit, lui, en mettant la pression sur le corps physique, fait que ce corps physique meurt vite. Donc au lieu de vivre 4 ou 5 000 ans, on en vit 50, 60, 70, 80, ça dépend où on est. Donc l'esprit, lui, il s'en fout du nombre de corps, s'en fout. Lui, il a l'éternité. Donc, il dit que j'en utilise 20, 30, 50, ou 300, ou 10 000, m'en fout. L'avantage quand même d'une incarnation, on va dire, assez courte, c'est que vous pouvez expérimenter beaucoup de personnages différents dans beaucoup de situations différentes. Alors que si vous viviez, on va dire, 4 ou 5 000 ans, vous imaginez que l'école maternelle s'appelle tellement long, vous en souviendrez même plus. Hein. Et donc, vous pourriez accumuler des connaissances qui seraient énormes. Imaginez que vous arriviez à vivre simplement 1000 ans. Vous voyez ce que vous pourriez engranger comme connaissances en 1000 ans. C'est fou. Et donc, on aurait beaucoup de connaissances, ça c'est évident, mais vous seriez toujours dans le même corps. C'est-à-dire que bah, si vous êtes un mec, vous serez mec. Par contre, en ayant des incarnations extrêmement courtes, eh bien, fait que vous pouvez expérimenter, dire voilà, je suis un black, je suis un jaune, je suis un rouge, je suis un truc, je suis un machin, un blanc, un nordique, un sudiste, un équatorien, enfin bref, vous pouvez tout, et avec des, à toutes les époques, hein, en partant de la préhistoire, en passant par l'Atlantide, vous pouvez expérimenter énormément. Et donc, voilà pourquoi le scénario est assez particulier sur cette planète Terre, c'est que nous sommes une richesse inégalée. Une richesse inégalée. Maintenant, il va falloir faire, on va dire, harmoniser tout ça. C'est-à-dire faire le résumé de tout ça. Et donc, ne pas s'accrocher à une incarnation particulière, à un nœud émotionnel particulier, mais de dire, voilà, je fais le résumé de tout ça, je remets les trois participants autour de la table, on voit tout ce que l'on a en commun, tout ce qu'on veut bien mettre en commun, tout le reste on le dégage. Et à partir de ça, voyons quel est le service que l'on va pouvoir rendre non seulement à l'humanité, mais à l'ensemble de toute la création. Voilà pourquoi la Terre va devenir une école. Beaucoup d'entités vont venir s'incarner, parce que bah, ils vont d'abord découvrir l'âme, et ils vont se dire, mais on fait quoi avec elle? On joue comment? Et nous, on l'aura tellement joué que ça sera d'une banalité. Voilà, parce qu'ils n'auront pas expérimenté le corps émotionnel, ils savent déjà tout ça. Ils n'auront pas expérimenté les équations mathématiques, ils connaissent déjà tout ça. Non. Il va falloir qu'ils expérimentent à avoir une entité qui n'existait pas ailleurs que sur le continent terrestre. Bien. Je regarde s'il y a d'autres questions. Une question de Mille. Justement, pour devenir Chris, comment feront s'ils sont sur le chemin? Là, ça touche par rapport à quoi, là? Ah, les homosexuels. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant de devenir Christ, il y a quand même du taf à faire. Soyons quand même, je dirais, logique. On va dire. Avant de devenir Christ, il faut déjà devenir un maître ascensionné. Et devenir un maître ascensionné, c'est quand même pas quelque chose qui va se faire dans les 3 ans qui vont venir. D'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir déjà commencer à devenir immortel. Donc déjà, quand un individu sera devenu immortel, il aura déjà fait un super grand pas en avant. Vous êtes d'accord? Ensuite, quand il aura ascensionné et ressuscité, hein, il sera dans son corps de résurrection, là, ça va être quand même pas mal non plus. Hein. Donc, chaque chose en son temps. Soyons quand même, on va dire, logiques. D'après vous, pensez-vous que les personnes aujourd'hui sur Terre vont réussir à devenir des immortels dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Donc, c'est pas une problématique qui va se poser demain. Maintenant, regardons une autre chose. Votre esprit directeur a, on va dire, 8 possibilités d'incarnation simultanées. Dès qu'un individu atteint le stade de maître ascensionné, les autres individus, les autres incarnations dans lesquelles il est, comme esprit directeur, eh bien, vont pouvoir bénéficier de ces fréquences. Et donc, obligatoirement, il y aura forcément des hommes et des femmes. Donc, il y aura la possibilité de devenir Christ. Car qui devient Christ? un individu ou un esprit directeur. C'est l'esprit directeur qui mène, c'est lui le joueur. Et nous, nous ne sommes qu'une extension de ce joueur. Donc, si nous, dans cette extension-là, nous n'arrivons pas à faire le joint, enfin, par exemple, à devenir Christ, c'est pas un problème. Puisque, de toute façon, c'est quand même nous qui allons le devenir, mais via une autre entité. C'est pas le problème. Donc, à notre niveau, on va dire individuel, c'est-à-dire que si aujourd'hui Laurent Duro n'arrive pas à devenir un être ascensionné et en plus un Christ, bah c'est pas grave, il fera dans une autre incarnation, mais tout le chemin qu'il aura fait ici et maintenant va bénéficier à l'ensemble de toutes les incarnations actuelles et les incarnations futures. Simplement, sur l'état civil, il n'y aura pas écrit Laurent Duro, il y aura un autre nom qui sera dans un autre corps physique, certes, mais qui restera toujours un ADN humain. Je vous rappelle que l'humanité partage le même ADN. On est d'accord, mais simplement, l'âme est commune à l'esprit directeur, ce qui veut dire que quelle que soit l'incarnation qu'il prend, il va refoutre les mêmes fringues. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu au-delà simplement de notre vie physique actuelle. L'essentiel est d'élever notre fréquence. Élevons la fréquence, et après on verra. Donc si, on va dire, j'élève ma fréquence suffisamment, j'aide mes autres incarnations actuelles à élever leur fréquence. Et peut-être que d'autres, actuellement, m'aident en retour à élever ma fréquence. Regardons à ce niveau-là, et puis après on verra. Donc si on me dit, écoute, voilà, tu deviendras Christ dans 65 ans, je dirais, c'est bien. Mais il faudra que je vive encore 65 ans. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc, vivons chaque jour, au jour le jour, faisons du mieux qu'on peut, et puis après, les choses s'enquilleront d'elles-mêmes à la vitesse où ça devra s'enquiller. Voilà. Et c'est pas parce que vous êtes homosexuel maintenant que vous allez l'être encore dans 50 ans. Il y a combien d'homosexuels qui sont mariés, enfin, avec un sexe opposé? Il y en avait un paquet, hein, je vous signale. Il n'y a que récemment, et dans les pays occidentaux, que les homosexuels peuvent vivre ensemble. Mais il y a quand même beaucoup d'homosexuels qui sont mariés comme des couples normaux, avec des gosses. Simplement, ils ont suivi la musique, entre guillemets, de la société. Et pourquoi pas? Vous savez, c'est comme une relation d'affaires, hein. Vous n'êtes pas obligé de dire « il faut qu'on vive ensemble, qu'on fasse l'amour ensemble », non. Vous pouvez avoir une entente avec un sexe opposé, sans pour cela coucher avec, et faire votre vie avec, hein. Non. Enfin bon, de toute façon, j'ai annoncé dans la dernière webconf que viser Christ est théoriquement ce que devrait viser tout le monde. Bon, le principal c'est de marcher dans cette direction-là, après combien de temps ça prendra, on le verra, on dira ça plus tard, quand on sera le devenu, parce que pour l'instant il n'y a absolument aucune possibilité de savoir quand. C'est impossible. Puisqu'il y a tellement de variations, de différences, de chemins, il peut arriver tellement de choses, d'imprévus, de fou. Donc, s'en fout. Le principal, on avance. Chaque jour. Demain sera un autre jour. Bien. Eh bien, écoutez, j'ai éclusé toutes les questions. Et je vais vous souhaiter une bonne continuation, en espérant que nous allons pouvoir nous revoir un de ces jours. Merci, au revoir à tous.